Chers frères et sœurs, Jésus vient de nous dire des paroles qui ont quelque chose de surprenant, même de déstabilisant, des paroles qui ne nous laissent pas dans une paix superficielle et même pourraient nous jeter dans une véritable crise intérieure, c'est-à-dire nous placer devant un choix et ainsi devant une décision à prendre pour notre propre vie. Voilà en bref les trois paroles du Seigneur. Je suis venu apporter un feu sur terre. Je dois recevoir un baptême. Je suis venu mettre sur terre non la paix, mais bien plutôt la division. Si, dans le contexte de la vie de Jésus et de son enseignement, nous pouvons peut-être entrevoir sans trop de difficultés un sens derrière l'évocation du feu ou du baptême, qu'en est-il de la perspective peu rassurante de futures divisions? Jésus n'est-il pas en train de se mettre en contradiction avec lui-même? De fait, au début de sa vie, comme nous le chantons à Noël, Jésus n'est-il pas salué comme prince de la paix? Et lors de son dernier repas avec ses apôtres, la dernière scène, ne dit-il pas cette parole que chaque Eucharistie nous fait entendre? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Comment se fait-il donc qu'aujourd'hui, Jésus nous annonce non la paix, mais des divisions? À qui avons-nous affaire? Or, la promesse de paix que chaque Eucharistie renouvelle, Jésus la donne juste avant d'entrer dans le drame de sa passion, quelques heures seulement avant d'être rejeté par tous et devenir objet de mépris et d'humiliation extrême. Y aurait-il peut-être rapport entre la paix que Jésus promet et le drame qu'il devra traverser? Et si ce drame lui-même était la source de la paix que Jésus nous promet? Si le drame de Golgotha, ce drame que nous contemplons chaque vendredi saint et qu'a évoqué tout à l'heure de façon impressionnante la deuxième lecture tirée de l'Épître aux Hébreux, si ce drame était le lieu par excellence de notre apaisement, de notre rentrée dans la paix, de notre réconciliation avec Dieu et les autres. Dans ce cas, la paix promise par Jésus n'est-elle pas d'abord le fruit d'un don total, le fruit du don le plus grand que Dieu ait pu nous faire, à savoir le don de son Fils livré, exposé, confronté aux conséquences de nos égarements, livré pour que nous puissions trouver la paix? Faisons encore un petit pas de plus. C'est en nous donnant totalement Jésus, son Fils, que Dieu nous révèle et nous donne l'immensité incompréhensible de sa miséricorde. Or, n'est-ce pas justement cette miséricorde, cet esprit de miséricorde infini, qui est le feu mystérieux qui dévore le cœur du Fils? De fait, Dieu, pour nous faire rentrer en communion avec lui et avec nos frères et sœurs, n'a pas voulu nous imposer quoi que ce soit, mais nous donner sa propre vie, en livrant son Fils jusqu'à l'extrême de la déréliction. Dès lors, l'immense désir du Fils n'est-il pas que nous accueillions cette vie, sa vie donnée, sa vie d'obéissance filiale, sa vie de miséricorde. Or, dire oui à la logique de l'amour miséricordieux dont brûle le cœur du Fils, n'est-ce pas apprendre, peut-être avec des hésitations et à petits pas, à dire oui au Fils, consentir à devenir ses disciples, apprendre sans prétention à témoigner de cet amour qui n'exclut pas, qui n'établit pas des murs, qui ne constitue pas des groupuscules, qui ne constitue aucun groupuscule idéologique sous aucun prétexte. Apprendre à vivre de cet amour dont Jésus est devenu messager et source infinie, et rendre en quelque manière palpable cet amour, palpable grâce à ces petits, si humbles mais si vivifiants gestes qui naissent d'une patience qui n'exige rien, qui naissent d'un pardon silencieusement renouvelé, qui naissent d'une disponibilité sans calcul et qui laisse tomber toute planification pour accueillir la vie. N'est-ce pas ainsi devenir témoin de la miséricorde dans un monde qui, trop souvent, n'en veut pas parce qu'il préfère ses propres commodités? Or, le seul fait d'ouvrir son propre cœur au pardon, de l'ouvrir à l'accueil de celui qui est autre, de l'ouvrir à la patience, etc., cela peut déstabiliser, peut dérouter, peut forcer des ténèbres, des mensonges, des égoïsmes à venir à la lumière. Osez rappeler que le pauvre et le faible ont droit à l'existence et à être traités sans mépris. Cela peut bien provoquer de l'incompréhension et même de l'opposition acharnée. Mais attention, ne jetons pas maintenant nos yeux sur ceux qui manqueraient éventuellement d'ouverture chez nos voisins et nos voisines. Car la frontière entre la lumière et les ténèbres, la frontière entre la miséricorde et la non-miséricorde, ne passe pas entre nous et les autres, mais cette frontière passe exactement, de grâce ne l'oubliez jamais, elle passe par notre propre cœur. Oui, chers frères et sœurs, la frontière entre ceux qui est déjà un peu touché et transformé par le feu de la miséricorde divine, et ceux qui, hélas, y résistent encore, et souvent si bêtement, elle passe aussi, hélas, à travers mon propre cœur. Donc, frères et sœurs, veuillez tirer une première conclusion courageuse. Priez pour moi, car sans la miséricorde du Seigneur dont vous me serez témoin, comment pourrais-je avancer ou même subsister ?